Vous écoutez On lit pour vous.
Des historiens sceptiques par rapport à trois BD historiques sur la Nouvelle-France. Un texte de Leonard Smith paru le 27 juin 2026 dans Le Devoir. Comment raconter aujourd'hui l'histoire du Québec à des adolescents? Trois bandes dessinées consacrées à la Nouvelle-France et une exposition sur le français. C'est le pari de la Fondation Lionel Groulx, subventionnée à hauteur de 900 000 $ par le ministère de la Langue française. Le projet, intitulé « Le français en Nouvelle-France », série de bandes dessinées et expositions, suscite toutefois plusieurs réserves de la part d'historiens. D'abord parce que les figures choisies pour chacun des trois tomes, Pierre Lemoyne d'Iberville, la famille Lavérendrye et Jeanne Mance, ne font pas l'unanimité. Ces personnages ont déjà été héroïsés au 19e et 20e siècle, estime Catherine Larochelle, professeure au département d'histoire de l'Université de Montréal. Ce n'est pas du tout des figures méconnues. C'est dommage de ne pas profiter de l'occasion pour amener des nouveaux pans de l'histoire à la lumière, déplore-t-elle. Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, se réjouit, pour sa part, que les personnages et les événements marquants de notre riche histoire nationale figurent dans ce projet qui contribuera à l'intégration à la nation québécoise et à la valorisation de notre belle langue officielle et commune, pouvait-on lire dans le communiqué annonçant le projet à la mi-juin 2026. Une fois publié chez VLB Éditeur, les bandes dessinées prendront leur envol vers 15 000 élèves du secondaire, notamment pour créer des échanges avec eux sur l'importance d'assurer la vitalité du français au Québec. La capacité du récit traditionnel historique, dans lequel s'inscrivent les trois personnages ciblés, à interpeller un public adolescent peut toutefois être contestée, selon Jean-Pierre Le Glonec, professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Selon l'historien, un tel récit risque d'invisibiliser certaines expériences francophones, notamment celles d'esclaves, de personnages peu célèbres ou de membres de Premières Nations, auxquels les jeunes du Québec pourraient tout autant s'identifier. Savoir représenter fidèlement. On va évidemment traiter des Autochtones dans les trois bandes dessinées, affirme Myriam Darcy, directrice générale de la Fondation Lionel Groulx. Des spécialistes autochtones seront consultés afin que ces questions soient abordées avec rigueur et sensibilité, ajoute-t-elle. Pour l'auteur et rappeur Biz, qui co-signera le premier tome illustré par Christian Kennel, il sera aussi primordial de représenter fidèlement les modes de vie de chaque communauté. Pierre Lemoyne d'Iberville va rencontrer, au cours de sa vie, des Autochtones de la vallée du Saint-Laurent, des Inuits, des Cris de la baie du Tson, des Natchez de la Louisiane. Ces Premières Nations n'étaient pas habillées de la même façon, n'avaient pas les mêmes habitations ou les mêmes armes, explique-t-il à propos du niveau de détail visuel escompté. Si les biographies historiques demeurent légitimes dans un objectif de diffusion pédagogique, elles peuvent occulter la part sombre des personnages qu'elles décrivent, estime Jean-François Palomino, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Va-t-on mettre en exergue, comme l'ont fait les recherches récentes, l'implication des Lavérendrye dans la traite des esclaves autochtones? Va-t-on faire remarquer que Jeanne Mance participait à un ambitieux projet de conversion des Autochtones à la foi catholique? Se questionne le spécialiste de la Nouvelle-France. L'exemplarité du personnage d'Iberville demeure aussi sujette à débat. Lui qui faisait usage de violences impitoyables dans ses combats contre les colons britanniques de la Nouvelle-Angleterre, remarque le professeur. Catherine Larochelle se questionne quant à elle sur la responsabilité sociale de valoriser actuellement des figures bellicistes, comme Pierre Lemoyne d'Iberville. On peut questionner ce passé-là avec nuance, sans tout rejeter, fait-elle valoir, tout en doutant que cet objectif soit compatible avec l'approche classique de la Fondation Lionel Groulx. Une subvention importante. L'objectif des bandes dessinées est de favoriser la cohésion sociale, avance Myriam Darcy, en transmettant l'amour de la littérature québécoise. Plus on connaît notre histoire, plus on fait société, explique la directrice générale. Vouée à la promotion de l'histoire nationale, de la langue et de la culture du Québec, la Fondation Lionel Groulx bénéficie de 900 000 $, soit la subvention maximale pouvant être accordée pour les projets de 3 ans dans le cadre du programme pour la valorisation et la vitalité de la langue française. Les projets sont sélectionnés notamment sur la base de leur cohérence avec la mission du programme. De tels programmes de financement ciblés pourraient conduire à l'uniformisation des champs de recherche en histoire, prévient toutefois Jean-Pierre Le Glonec. Assurons-nous de défendre le français, mais assurons-nous aussi que la recherche soit la plus libre possible pour que les sujets qui fâchent, les sujets qui ne sont pas proches des priorités gouvernementales, soient abordés, clame le professeur. Même son de cloche du côté de Catherine Larochelle. La recherche en histoire et sa diffusion au public sont plus dirigées par le gouvernement qu'elles ne le devraient. On a peu de ressources pour faire de la recherche indépendante et encore moins pour diffuser nos résultats en dehors des cercles universitaires, se désole la professeure. Elle qualifie la subvention d'astronomique pour un projet très ciblé. Si les 900 000 $ couvrent aussi la tournée scolaire et une exposition à la Grande Bibliothèque prévue en 2028, la subvention paraît importante par rapport aux sommes habituellement perçues par le milieu québécois de l'édition, selon Karine Vachon, directrice générale de l'Association nationale des éditeurs de livres. À titre indicatif, quelque 5,8 millions de dollars ont été octroyés à 103 maisons d'édition dans le cadre du programme d'aide aux éditeurs 2024-2025 de la Société de développement des entreprises culturelles, le plus important de la province, pour une moyenne de 56 500 $ par maison d'édition. C'était Des historiens sceptiques par rapport à 3 BD historiques sur la Nouvelle-France, un texte de Léonard Smith paru le 27 juin 2026 dans Le Devoir.
Annie-Claude Thériault, Les tragédies douces. Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Après la publication de 3 romans remarqués, Annie-Claude Thériault s'attelle à la nouvelle avec le recueil Les Disparitions chez Marchand de Feuilles. Cette histoire, empreinte de spleen, parfois même de tragédie, où filtre cependant une certaine tendresse, sans jamais pour autant basculer dans la mièvrerie. C'est un art de savoir pratiquer la forme brève en déployant la grandeur. L'autrice s'y emploie depuis longtemps, elle qui a reçu le prix de la nouvelle Radio-Canada en 2015. Dans son plus récent livre, les îles sont à l'honneur, nous offrant des espaces où le temps se dilate, l'âme prend de l'ampleur, l'horizon toujours à portée de vue. Un après-midi ensoleillé, dans un pub du plateau Mont-Royal, la lumière se laisse partiellement inviter, tamisée par l'immeuble encoigné dans une petite rue montréalaise retirée qui participe grandement à son charme. À l'instar du livre « Les disparitions », l'ambiance est à la fois nimbée d'ombre et de clarté, parfaite pour accueillir les confidences d'une autrice sur son travail d'écriture, dont l'aboutissement nous mène à tenir entre les mains un recueil où l'insularité, davantage qu'une contrée où se poser, s'érige en autant de vies connues pour la profondeur de ses vertiges. La nouvelle permet de jouer beaucoup avec la construction des idées, plus que dans un roman où tu as une seule grande construction. Des récits tous reliés, cependant, par l'air salin, soufflés par des vents parfois contraires. Plein de lueurs. Dans La Coccinelle, il ne se passe presque rien, mais on sent la menace s'immiscer tout au long. Les nouvelles du monde sont mauvaises, et même l'île de Grand Manan ne semble plus pour Willa constituer un rempart tranquille contre ce qui se trame. C'est Christian Gay-Poliquin, dans « Le poids de la neige », qui disait, quand il ne se passe rien, « On dirait que tout peut se passer ». C'était aussi un peu ça. C'était comme de reprendre cette lenteur-là. Résolument confiante en l'humanité, Annie-Claude Thériault a l'optimisme tenace. Celle qui enseigne la philosophie au collège Montmorency prêche pour la nuance lorsqu'il s'agit de nommer les catastrophes qui nous occupent. Oui, ça va mal. Oui, il y a des villages qui ferment. Oui, les changements climatiques. Oui, Trump est au pouvoir. Mais reste à nous d'être là et de donner sens au monde. Dans « Attends-moi », Salomé cherche l'éloignement. Mais plutôt que d'accéder à une retraite bienfaitrice au Svalbard en Norvège, elle sombre de plus en plus. Sa mère, qui écrit des lettres pour se rapprocher de son enfant déraciné au bout du monde, tente de comprendre sa détresse jamais endiguée. En parlant des bernaches nonnettes perchées sur les plateaux de la toundra, elle demande « Qu'est-ce qu'elles font là, alors, sur une île qui les isole encore plus? » Ce qui renvoie en écho la question à sa fille. Une île peut parfois être un endroit idyllique, emprunté à un certain paradis perdu, mais aussi une zone hostile, d'où on ne peut même pas échapper à soi. C'est comme si l'île était un écho de sa solitude. C'est vraiment un miroir de son état d'isolement, du sentiment que le monde ne la comprend pas, qu'elle n'a pas sa place. Être seule sur son île, c'est, comme le dit l'expression consacrée, libre mais seule. La petite Billy regarde Aylmer Sound brûler. Dans La dernière tarte, une communauté voit se concrétiser la fermeture de leur village. L'espace où l'on habite n'est pas qu'un point géographique sur une carte. Il contient tous les souvenirs et les liens qu'on a créés, fait partie de l'identité même des gens. C'est la tragédie des immigrants. Je pense aux Irlandais qui ont été si exilés à travers le monde. La déportation des Acadiens, ce que vivent les gens en guerre en ce moment. Tu sais, mine de rien, tu remontes à une génération et tu ne sais même plus d'où tu viens. Tu n'as pas de lieu, tu n'as pas de territoire, tu n'as pas d'imaginaire collectif. Originaire d'un non-lieu, être sans exister réellement. Dans Private Property, deux amis partent séjourner en canot camping au lac à la loutre. Elles devront conjuguer avec leurs peurs les plus intimes les ombres, les bruits, les ours. Est évoqué dans cette nouvelle ce que les femmes doivent se réapproprier, ce qu'on ne leur a jamais appris, c'est-à-dire leur autonomie, leur force, leur capacité. Oh, une fille! Et le ton dit tout. Il dit qu'on s'inquiète pour elle, pour son futur, pour son estime de soi, parce qu'elle pourra tomber enceinte, parce qu'elle pourra être agressée. Cette peur originelle qui taraude les femmes toute leur vie durant, comment la transcender alors même que les périls sont réels? C'est vraiment une nouvelle sur la condition des femmes. Qu'est-ce qu'on nous a appris à être aussi? Je suis prof et dans mes classes, les filles sont tellement disciplinées. Elles prennent des notes, elles écoutent les consignes. Puis les garçons à côté sont plus dissipés, mais en même temps plus créatifs aussi. Quand je leur dis « faites trois paragraphes », du coup, ils en font quatre. C'est quoi cette éducation-là qu'on donne à nos filles? La crainte ne disparaît pas, mais la témérité de marcher la tête haute peut aider à tracer le chemin. Étreindre l'imprévisible. C'est toujours un peu comme ça sur une île, l'impondérable. Dans « Et c'est ça qu'il restera », la vulnérabilité de l'humain confronté aux éléments en fait aussi sa force, car en mesurant l'imprédictible, il fait corps avec sa nature profonde et son environnement. L'île est un paradoxe. Quand tu acceptes que, regarde, ça se peut que le traversier ne parte pas un matin, ben, c'est parfait. Là, tu arrêtes d'être en lutte. Et là, la vie devient comme soudainement plus légère. Dans la dernière nouvelle, Retrouver Bill, la narratrice ne regarde plus l'horizon comme tout insulaire. Elle n'a Dieu que pour sa vengeance. Quand elle revoit Bill, elle constate que la vie s'est elle-même chargée de la conscience de l'homme. Mais il a fallu 20 ans et ce voyage à Dingle, en Irlande, pour qu'elle puisse faire la paix avec la mort de sa mère. Le temps, la mémoire travestissent les vraies émotions. Tout à coup, quelqu'un nous raconte ce qui s'est vraiment passé et on se rend compte que ça fait 10 ans qu'on entretient notre souvenir. Peuplé de personnages marqués, graves, éprouvés, le recueil demeure serti d'une douceur placée précisément au cœur des êtres qui le composent, comme si le refuge se trouvait plus près que ce que l'on pense. La mort qui s'immisce dans certaines nouvelles ne réussit pas à détruire l'intensité des liens vécus. La mort, c'est tellement quelque chose de tragique, mais en même temps, c'est tellement beau d'avoir pu aimer quelqu'un au point qu'il nous manque quand il n'est plus là. C'est dans l'entre-deux, ou plutôt dans l'amalgame des émotions, dans leur complexité multidimensionnelle, que réside la véritable posture des choses pour Annie-Claude Thériault. La beauté seule me paraît presque difficile, de dire l'écrivaine, y trouvant une lumière quasi aveuglante. Encore une fois, dans la nuance, elle préfère la mélancolie, plus teintée, moins directe. J'aime ça dire ça de même, mais j'ai le beau triste. C'était Annie-Claude Thériault, Les tragédies douces. Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
L'enseigne de Farine Five Rose, Le phare qui veille sur Montréal. Un texte d'Émilie Côté, paru le 4 juillet 2026 dans la presse. Alors que la Croix du Mont-Royal s'éteindra au cours de la prochaine année pour des travaux, Montréal aura toujours son phare à l'entrée du centre-ville. L'enseigne de Farine Five Rose, qui veille sur la métropole en haut d'un bâtiment de 10 étages du complexe de l'ancienne Ogilvy Floor Miles. Pour bien des Montréalais, l'enseigne incarne l'image réconfortante de la maison, que ce soit au volant de sa voiture sur l'autoroute Bonaventure ou dans le trajet du réseau express métropolitain REM entre Brossard et la gare centrale. Le dimanche de la fête des Pères, Daniel Ouimet et son fils était aux premières loges du train du REM. Papa portait un T-shirt de l'enseigne emblématique de Montréal, produit au Québec par PLB Design. Un hasard. Le T-shirt indique que je viens de Montréal. C'est le symbole de l'entrée de la ville, a dit Daniel Ouimet à la presse. Une enseigne comme il ne s'en fait plus. Des néons sur une structure d'acier. C'est la dernière installation de ce type-là, fait valoir Taïka Bayarjon, directrice adjointe aux politiques chez Héritage Montréal. C'est un des derniers vestiges d'une période où il y en avait beaucoup, poursuit Matt Soar, professeur retraité de l'Université Concordia, qui a fondé Projet d'enseigne de Montréal. Celle de Farine Five Rose a changé de nom 3 fois, mentionne-t-il. Lors de son installation en 1948, l'enseigne affichait « Farine Ogilvy Floor », puis celui de « Farine Five Rose Floor » à partir de 1954, quand l'entreprise a été rachetée. En 1977, le mot anglais « floor » a été retiré en vertu de la Charte de la langue française. En 2006, quand l'entreprise Archer Daniels Midland, ADM, a vendu la marque Five Rose au géant Smucker's, l'enseigne s'est éteinte. Des citoyens et des organismes ont milité pour sa sauvegarde, puis il a suffi d'un appel d'Héritage Montréal au patron de Smucker's pour les convaincre de garder l'icône de Montréal illuminée et même de la restaurer. C'est une histoire porteuse. Pas tous les gens sont l'ennemi du patrimoine, souligne Taïka Bayarjon. Nous continuons d'assurer la maintenance de l'enseigne, affirme Adam Zitney, vice-président au marketing de Smucker Foods of Canada. Seule l'enseigne appartient à Smucker's. L'édifice est toujours la propriété d'ADM et sa minoterie fonctionne à plein régime, si bien qu'on y transforme de blé en farine 70% de celle qui est requise par l'industrie alimentaire québécoise. C'est un des moulins les plus performants et modernes du groupe ADM en Amérique du Nord, mentionne Hélène Doyon, urbaniste conseil pour ADM. L'entreprise souhaite demeurer aux abords du canal de la Chine à long terme. Dans une métropole, de telles usines situées près du centre-ville sont de plus en plus rares. Son secteur, celui de Bridge Bonaventure, est en redéveloppement et lors des consultations publiques, des organismes communautaires ont dit croire en une cohabitation résidentielle et industrielle. Les roses de Montréal. Depuis 2025, l'emblématique enseigne n'a pas qu'une valeur historique. Elle s'inscrit activement dans son époque. Des soirs avant et le jour de certains matchs à domicile, deux mots de l'enseigne Five Rose s'éteignent pour laisser place à
Rose, nom de l'équipe de soccer féminine de Montréal. J'ai eu une vision, raconte la copropriétaire de l'équipe et entrepreneur Isabelle Chevalier. C'est en hauteur, ça flash. Je trouvais ça fort d'incarner l'idée que les roses débarquent en ville et de s'inscrire autant dans la culture montréalaise. Quand Isabelle Chevalier et son équipe cherchaient un nom pour la future première équipe de soccer féminine professionnelle de Montréal, elles souhaitaient s'inspirer d'un symbole de la métropole. « Je suis montréalaise et nous voulions être enracinés dans la ville », raconte-t-elle. Si le mot « rose » se trouve dans la plus emblématique enseigne lumineuse de Montréal, la rose rouge du Lancastre figure aussi dans le drapeau de la ville pour symboliser les Anglais aux côtés des Français, fleur de lys, des Irlandais, trèfle vert, des Écossais, chardon pourpre, et des peuples autochtones, pin blanc. Même la typographie de l'enseigne de Farine Five Rose a inspiré le logo des roses. Pour Isabelle Chevalier, le partenariat avec Smuckers est un rêve devenu réalité. C'est une façon de revaloriser l'enseigne historique dans le monde de 2026 où le sport féminin se taille une place. Cette année, le rose de l'enseigne a clignoté pour le match d'ouverture et le fera pendant les séries. C'est aussi ce qui ressort d'une œuvre unique de l'artiste Nicolas Ruel qu'Isabelle Chevalier a reçue en cadeau pour son dernier anniversaire en mai dernier. L'enseigne de la baie préservée. Dans l'arrondissement de Ville-Marie, une vingtaine d'enseignes commerciales d'intérêt patrimonial sont protégées depuis 2020, dans la foulée de la sauvegarde de celle du magasin Archambault de la rue Sainte-Catherine. Bonne nouvelle, Héritage Montréal et le projet d'enseigne de Montréal ont fait équipe pour sauver quatre enseignes de l'ancien magasin La Baie du centre-ville. L'une d'elles se retrouvera au musée du même, Centre des mémoires montréalaises. Les enseignes racontent une histoire, s'émeut Matsoar. Tu sais, quand tu vois celle de Five Rose, que tu rentres à la maison, illustre-t-il. Cela fait partie du paysage au même titre que le stade olympique ou la ronde. C'est la ville, c'est notre ville. C'était l'enseigne de Farine Five Rose, le phare qui veille sur Montréal. Un texte d'Émilie Côté paru le 4 juillet 2026 dans La Presse.